Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Nous sommes le 24 février 2021, au moment où bien ce podcast est disponible sur le site, et c'est disponible un peu partout d'ailleurs hein, aussi. On rappelle qu'il est visible là, juste en dessous, en vidéo, sur le site. Tout à fait normalement et gratuitement pour tout le monde, sans publicité pour les premiums, rappelons-le, mais aussi sur Spotify, Deezer et autres. Vous pouvez le retrouver où vous voulez. On n'a qu'à maintenant commencer en se souhaitant un bon anniversaire, parce que depuis le 20 février, eh bien, nous avons 14 ans. Voilà, Gameblog a 14 ans.
Eh ouais!
C'est l'adolescence.
Peut conduire un scooter.
Voilà, c'est l'âge court. Exactement, on peut prendre un scooter en 50 cm cube. Essayons de ne pas le débrider. Je sais que Thomas est déjà dans cette optique. Et 14 ans, c'est pas mal. Faut dire ce qui est. On verra pour les 15 ce que ça donne. Mais en tout cas, on est très content d'être arrivé là. Évidemment, Traz et Camille, qui ne sont pas parmi nous, vous souhaitent à vous, cher lecteur qui est là depuis le début, un bon anniversaire aussi. Mais nous allons
Camille,
entamer...
il tire des coups de canon dehors. En
Camille, déjà, il faudrait qu'il ait Internet. Ça serait déjà une bonne chose. On va attendre de voir si son fournisseur d'accès Internet veut bien lui redonner une connexion. Thomas est avec nous depuis
Coucou.
Sa bibliothèque, depuis
Et oui.
Son appartement où il est négatif. Voilà,
tout
vous avez
à
suivi
fait.
Les aventures
tout
de
à
Thomas
fait.
La semaine dernière.
Comme je n'ai pas voulu prendre de risques, sachant qu'on a un vénérable quinquagénaire qu'on aime tous bien à la rédaction, j'ai préféré m'isoler encore une petite semaine pour ne mettre personne en danger.
Et ça tombe bien, puisque les recommandations maintenant, c'est 10 jours. Donc c'est pour ça que peut-être que tu devrais respecter.
Non, parce que ce n'est pas rétroactif.
Ah bon?
C'est comme en droit pénal.
Ah bon, pour toi, c'était 7 jours alors.
Ouais, hein, moi je suis tranquille, là c'est bon.
Okay,
J'ai un message de l'ARS, je peux sortir et aller tousser dehors.
Très bien. Romain, toujours en direct de Levallois, de son huitième étage. Huitième étage, sans ascenseur. On vous dit que Gameblog a des problèmes logistiques et autres, qu'on a du mal à faire des trucs. Il faut savoir que quand même, c'est un peu la bérésina pour tout le monde. Hein. Ouais. Romain n'a plus d'ascenseur, il habite au huitième étage. Thomas a presque le Covid, mais il a réussi à l'esquiver. Camille n'a plus d'Internet. Et je ne vous parle pas de Traz. Bref, c'est un peu le bordel pour tout le monde, mais on arrive quand même à tenir les podcasts.
Tu sais, le truc, c'était vivement la fin de 2020, vivement la fin de 2020, parce que 2021, ça ne pourra pas être pire. Moi, je passe les détails parce que je ne suis pas ce genre de personne, mais je regrette 2020.
Ah oui, on en est là.
Je voudrais retourner en 2020. Ouais.
Bon,
et nous sommes en février, tout va bien.
Nous sommes en février, ouais.
On va pas retourner en 2020, on va retourner dans le podcast. Donc, trois thèmes aujourd'hui, trois thèmes qui vont rendre ce podcast peut-être un peu plus court que d'habitude, mais on va quand même essayer de développer un minimum. Il y a le Nintendo Direct, donc, qui a eu lieu le 17 février, le premier Nintendo Direct, vrai Nintendo Direct, gros Nintendo Direct, de plus de 5 minutes, qui n'est pas un partenaire ou indie Nintendo Direct, depuis le... mois de septembre 2019, imaginez quand même, quasiment un an et demi sans Nintendo Direct. Est-ce que ça valait le coup? Bon, ça, on verra ça tout à l'heure. Le thème numéro 2, lui, ce sera la BlizzCon Online, qui, vous le savez, est la version virtuelle de la BlizzCon qui s'est tenue, elle, ce week-end. Bon, est-ce que c'était bien pour les 30 ans de Blizzard? Pas sûr, on vous en parle aussi tout à l'heure. Et on finira avec deux tests de jeux qui veulent absolument... votre mort, tout simplement, à savoir Ghost and Goblins Resurrection et Cyber Shadow, un peu en retard, Cyber Shadow, mais on vous expliquera tout à l'heure pourquoi, un, c'est bien, deux, c'est dur quand même, c'est très très dur. Et ce qui est dur aussi, c'est qu'on va passer maintenant au win et au fail de la semaine. Et le win de la semaine, mon cher Thomas, il est pour toi, même si tu n'as toujours pas la console chez toi, eh bien, il faut quand même en parler, c'est une excellente nouvelle pour la Xbox Series X, Series S, à savoir que, eh bien, dans les petites surprises que nous réservait Xbox, qui nous disait « Ah, il y a encore des trucs qui vont arriver, qui vont améliorer l'expérience utilisateur », il y a une toute nouvelle fonctionnalité, c'est le FPS Boost, qui est arrivé, là aussi, le 17 février. Thomas, qu'est-ce que c'est?
Tout à fait. Mercredi dernier, eh ben, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une, comme tu l'as dit, excellente nouvelle pour tous les joueurs qui auraient envie de profiter justement d'un catalogue hyper riche, parce qu'on sait que depuis des années, Microsoft fait tout pour essayer de préserver les différentes générations de jeux qui sont sortis et les rendre compatibles avec ces nouvelles consoles. Et là, sur Series X et Series S, vous pouvez dorénavant profiter de ce mode, le FPS Boost, qui, comme son nom l'indique, eh bien, va augmenter pour certains jeux le framerate en fait, de jeux rétro. Alors, les premiers exemples là, qui ont été donnés par Microsoft, ils sont au nombre de 4, c'est histoire de donner un petit aperçu et un premier jet. On profite de Far Cry 4 et de Sniper Elite 4 justement dans de meilleures conditions, mais surtout, les exemples qui sont les plus parlants, je trouve, c'est UFC 4 qui, lui, passe de 30 à 60 FPS, donc en profitant de ce nouveau mode qui booste un petit peu le framerate. Et surtout, New Super Lucky's Tale, c'est pas pour la qualité ludique particulière du jeu, mais qui lui passe à 120 FPS, ce qui fait dire à Microsoft, c'est un argument marketing quand même assez fou, que eh bien, certains jeux seront 4 fois plus rapides que dans leur version d'origine. C'est quand même très très chouette, non seulement pour le confort de jeu, parce qu'on en a parlé plus d'une fois ici, le fait d'avoir une image beaucoup plus fluide, à minima 60 images par seconde, c'est quand même devenu quelque chose d'assez indispensable, je trouve. Et bah, pouvoir l'appliquer à des anciens jeux, ça permet non seulement de les redécouvrir ou d'en profiter autrement, mais surtout eh bien, de les garder actuels, finalement, de permettre de les rejouer un petit peu différemment. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle pour tous les joueurs, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, un petit peu par surprise, qui va se généraliser, puisque Microsoft a déjà promis que plein d'autres titres allaient profiter justement du FPS Boost au fur et à mesure. Et bientôt, vous aurez même un petit onglet, justement, au moment de sélectionner votre jeu, qui vous indiquera si la feature est présente et qui vous permettra aussi de choisir parmi l'activation d'un HDR automatique, ce genre de choses. Bref, plein de fonctionnalités qui vont complètement enrichir le côté rétro-compatible des deux modèles de Xbox. Et bah, c'est une excellente nouvelle, en tout cas, ça renforce une fois de plus la Xbox Series X et Series S dans leur positionnement. J'ai envie de dire, il ne manque plus que des jeux maintenant, mais pour tout le reste, c'est quand même très très fort, et on a de plus en plus de gages de la part de Microsoft qui manifestent un intérêt a priori très fort pour la rétro-compatibilité.
Après, c'était une surprise, oui et non, parce que quand ils avaient listé ce que permettrait la Xbox Series X en termes de rétrocompatibilité, le boost de FPS, il l'avait déjà évoqué.
Il n'était pas labellisé à ce moment-là. Hein.
Il n'avait pas donné de date de mise en place de la chose et les titres concernés, etc. etc. Mais on s'y attendait, on ne savait juste pas quand ça allait tomber. Et moi, je me pose la question pour Super Lucky Tale, s'il est sur le Game Pass, parce que je serais bien curieux de voir ce que ça donne en 120 FPS, et j'espère que ça va se démocratiser, parce que déjà la Series X, en fait, elle, en l'état, d'une manière naturelle, elle pouvait stabiliser le framerate des jeux qui avaient un peu de mal sur les précédentes générations, et là on passe quand même un cap supplémentaire en doublant dans certains cas, voire plus, le framerate. Et moi je suis vraiment curieux de voir les jeux qui vont bénéficier de cette fonctionnalité, parce que je pense par exemple à Yakuza 6 qui arrive sur le Game Pass en mars, et c'est un jeu qui est en 30 FPS en 30 FPS sur PS4 et qui mériterait vraiment d'être en 60, sachant que Yakuza 7 et Judgment sur Xbox Series X sont en 60 FPS, donc je pense que ce serait quelque chose de possible. Après, est-ce qu'ils vont le faire ou pas ? Et c'est un moyen, je trouve, du point de vue des éditeurs, de rallonger les ventes de leurs jeux les plus anciens, parce que ça peut créer des vocations, en disant que même si un jeu est vieux depuis plusieurs années, si tu sais que sur ta nouvelle console, bah, d'une, tu peux rattraper ton retard, mais deux, profiter de ce jeu-là d'une manière telle qu'il n'existait pas sur les...
4K, HDR automatique, bah voilà. Plus FPS Boost, c'est du bonheur.
C'est presque comme une version remasterisée naturelle.
C'est ce que j'allais dire. Pour les joueurs, justement, c'est un avantage, parce que ça rend presque obsolète, quelque part, le fait de rééditer des jeux en les boostant, justement, en opérant un lissage, le type de remaster HD dont on a aujourd'hui l'habitude. Là, tu as juste à insérer le même jeu dans ta console ou à le télécharger et à profiter de tout ça, de tous ces patchs qui étaient autrefois payants. C'est un argument, je trouve, très, très, très solide pour tous les joueurs qui sont un petit peu curieux de redécouvrir des titres déjà sortis.
Et ça rend le Game Pass encore plus séduisant. Parce que comme ça, de tête, j'aurais tendance à imaginer que les jeux qui vont bénéficier du FPS Boost seront principalement des jeux disponibles sur le Game Pass. Donc qui peut pousser encore plus à aller essayer ces jeux et à aller les essayer via le Game Pass. En tout cas, bah, pour les possesseurs de Xbox Series X dont je fais partie, c'est clairement ça peut être vu que comme une bonne nouvelle.
Et c'est le cas, c'est pour ça qu'on l'a placé en win, évidemment. Et on attendra de voir les prochains jeux qui seront annoncés sur le programme. Et on imagine qu'il y en aura des très très bons et que ça va faire, encore une fois, comme tu le disais, sûrement donner des envies d'achat. Le fail de la semaine, alors là, on passe encore dans une autre dimension avec Google Stadia. Alors, désolé, hein, on sait que on a foutu en rogne certaines personnes. On s'excuse, c'est pas le but de vous mettre en rogne vous, hein, en particulier. Hein, mais quand Stadia fait mal les choses, Stadia fait mal les choses. Et là, encore une fois, d'après une petite enquête de Kotaku, si je ne m'abuse, Romain. Ouais.
C'est ça.
Au niveau de la gestion, c'est vraiment, enfin, du management, c'est vraiment, vraiment catastrophique.
Alors, c'est non seulement catastrophique, mais, et là, ça n'engage que moi, mais je trouve ça honteux. Parce que l'annonce.
Ah, regarde, moi, je lève la main, je te le dis, on est deux, voilà, c'est honteux.
L'annonce.
Thomas est un capitaliste.
Non, moi, je trouve ça absolument formidable. Je trouve que c'est un modèle à appliquer à tous les développeurs de l'industrie.
Donc oui, ils ont annoncé le 1er février dernier la fermeture de Stadia Games and Entertainment, donc c'est-à-dire sa maison consacrée au développement de jeux exclusifs destinés à Stadia. Et donc évidemment, fermeture de studio accompagnée de licenciements pour une bonne partie du staff et reclassement en cours pour une autre partie des staffeurs, même si beaucoup ne sont pas forcément intéressés par un reclassement dans d'autres filiales de Google qui n'ont rien à voir avec le développement de jeux vidéo. Enfin bref, et donc ce qui est déjà d'une, ça, cette annonce du 1er février était assez dramatique pour les personnes concernées, mais ce qui remue le couteau dans la plaie, et ce qui rend les choses encore plus honteuses, c'est que le 27 janvier, c'est-à-dire même pas une semaine avant, Phil Harrison avait envoyé un email à tout le monde, donc un email général à la société, dans lequel il se félicitait des progrès effectués par justement Google Stadia Games and Entertainment, en disant, je cite, « Stadia Games and Entertainment a fait de grands progrès en matière de construction d'une équipe talentueuse et diverse, et de création d'un catalogue solide de jeux Stadia exclusifs. » Mais vous vous rendez compte du foutage de gueule quand même ? « Nous confirmerons rapidement l'enveloppe d'investissement destinée à SGE, ce qui éclairera la stratégie des SGE ainsi que ses objectifs et résultats visés pour 2021. » Donc en gros, le 1er février, ils annoncent la fermeture du studio et le licenciement d'une bonne partie de tout son staff. Et alors que le 27 janvier, il disait « Non, tout va bien, vous avez fait de grands progrès, c'est super le taf que vous faites, etc. etc. » Donc, non seulement ça, ensuite, les développeurs concernés par cette fermeture sont restés dans le flou, le plus total, pendant plusieurs jours. Et, le 4 février, donc, c'est-à-dire 3 jours après, enfin, 4 jours après, il y a eu une conférence téléphonique, là encore interne, avec Phil Harrison et les personnes concernées, dans laquelle Phil Harrison a tout simplement révélé qu'il était au courant, évidemment, que la fermeture allait être annoncée et qu'il était désolé d'avoir fait les choses de cette manière-là. Et donc, en gros, il révèle qu'il a menti, tout simplement. Il a été déclaré aux journaux, tout va bien, les progrès sont excellents, alors qu'à ce moment-là, il savait déjà qu'ils allaient annoncer la fermeture du studio quelques jours après. Donc, c'est
horrible. Phil Harrison, sur ce coup-là, est quand même... Enfin, je veux dire, comment ne pas le trouver antipathique ?
Ouais,
comment,
c'est lui, et évidemment, lui et les gens qui sont au-dessus de, lui.
Bien sûr que lui est probablement je vais pas dire la marionnette, mais peut-être quelque chose de pas forcément décideur dans tout ça, et que c'est probablement lui qui doit être obligé de faire le bouclier, le messager des mauvaises nouvelles pour la direction et pour les personnes qui sont au-dessus de lui. Mais néanmoins, Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable.
Mais en faisant le relais de ce truc-là, tu participes à valider quelque part ce management absolument abject.
Mais j'ai l'impression que Phil Harrison, c'est le genre de mec qui laisserait une petite annonce pour dire on a besoin d'un barman dans notre hôtel qui pourrait aussi faire graphiste. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait penser à ça un petit peu.
Parce qu'en plus, si t'es pas d'accord dans sa position, bah tu peux te barrer. C'est ce que Jade Raymond a fait, hein, d'ailleurs. Elle est partie. Et d'ailleurs, Jade Raymond a retweeté l'article de Kotaku.
Ouais.
Donc ça veut tout dire.
Avant de se rétracter, évidemment, mais le temps que ça a été spoté, de toute façon, on se doute qu'elle n'est pas partie en bon terme. Hein.
Ouais. Et donc aussi, dans cette seconde conférence téléphonique au cours de laquelle Phil Harrison a avoué son mensonge, il a donné des raisons pour la fermeture du studio. Alors, en fait, il donne des raisons sans expliquer le lien entre les deux. Tu vois, il dit où il y a ça qui a joué, mais il n'explique pas de quelle manière ce truc-là a joué. Donc, en gros, il explique que la série de rachats de studios effectués par Microsoft, dont le rachat de Bethesda, a contribué à décider la direction de Google, l'a décidé à laisser tomber le développement en interne. Pourquoi ? On ne sait pas. Il cite aussi la pandémie de Covid-19 comme raison ayant mené à cette fermeture. Enfin, c'est un des facteurs. Là encore, pourquoi? En fait, il a fait une checklist des prétextes à donner sans les expliquer. Enfin bref, évidemment, les personnes renvoyées, ça ne les a pas ni rassurées, ni comment dire... réconforté ou consolé, ou tu te dis ah oui,
ça leur a fait une belle jambe.
Oui, voilà, ça leur a clairement fait une belle jambe, surtout que c'était pas trop enfin expliqué dans le détail, c'était juste une checklist. Donc ils ont fait ça n'importe comment. Et
ouais, et puis il va falloir qu'ils expliquent sur autre chose dans pas très longtemps, Phil Harrison. Oui. En plus de ça, parce qu'il y a un autre problème qui est arrivé à nos oreilles au moment où on enregistre, hein, le mardi 23 février, puisqu'on a découvert, Romain, que...
Non, c'est Thomas qui va expliquer, là, pour le coup.
Non, non, je m'adresse à toi, je dis pas que je veux pas que tu expliques, je m'adresse à
moi,
toi.
Moi, j'ai rien à voir dans vos
yeux. Je te regarde les yeux dans les yeux. Non, non, j'ai dit ça comme ça. C'était juste que, en fait, il y a un jeu qui est disponible sur Stadia depuis le 1er février, donc depuis le jour où on sait que la division Stadia-jeu est fermée. C'est Journey to the Savage Planet qui est sorti le 1er février et qui est buggé jusqu'à la moelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à le lancer. D'autres, quand ils arrivent à le lancer, ont droit à des bugs à foison, des crashs. Ça se sait. Il y a pas mal de joueurs qui se sont plaints du côté de Stadia. Stadia a répondu, notamment sur Twitter, dire « Vous inquiétez pas, on travaille avec l'éditeur pour essayer de résoudre le problème. » Puis ça s'est transformé en contacter l'éditeur directement du jeu, ça sera mieux. Et donc sur Reddit, il y a un usager qui a fait un fil pour dire toutes les étapes
Harrison.
Par lesquelles il était passé jusqu'à aujourd'hui, parce que pour l'instant, le problème n'est toujours pas résolu. Alors, il a commencé par contacter Google qui lui a dit de contacter l'éditeur. L'éditeur, c'est 505 Games, donc éditeur milanais. Qui s'occupait notamment de Death Stranding aussi sur PC ou Bloodstained et qui s'occupera des Yuden Chronicle. Et 505 Games, l'assistante de 505 Games, lui a dit « Bah écoutez, en fait, on n'a pas les droits sur le jeu. C'est Stadia qui l'a. Malheureusement, on ne peut rien faire. Il faut que vous contactiez Stadia et que vous leur rappeliez que c'est eux qui ont les droits du jeu. » Et tout, parce que quand un jeu comme ça est sur Stadia, il est sur des serveurs un peu plus loin, et donc forcément, c'est assez différent des versions PC et consoles qui sont sorties l'année dernière. Et là, donc, c'est un gros problème, parce que le studio, Typhoon Studio, qui avait été racheté en 2019 par Google, forcément, il n'est plus là. Et donc là, du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu n'as plus les développeurs, tu as l'éditeur d'origine du jeu qui lui il a plus les droits, donc forcément il va pas s'y intéresser, et t'as Google qui renvoie le bébé comme ça, la patate chaude, en disant ouais mais c'est pas pour nous, mais en fait si, c'est eux. Et c'est ça le problème, c'est que là malheureusement je vois pas comment ils peuvent trouver une solution à un problème comme ça.
Le jeu appartient à qui maintenant? Il appartient à Google.
Ouais.
Là, comme ça, de tête, je dirais filer le truc, hein, il file le truc à un petit studio sous-traitant Il file le code du jeu à un petit studio pour assurer le service. Ah, je sais pas, hein, c'est compliqué.
Ah, il faut mettre quoi, les mains dedans. Hein. Enfin, ouais, pour réussir à se l'approprier, etc. Ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et puis, est-ce qu'ils ont envie, ne serait-ce que d'investir, de mettre des moyens là-dedans pour débugger le jeu, tu vois, sachant qu'il n'y aura pas d'entretien sur le long terme. C'est compliqué.
Tu mets le jeu.
Le signal que ça envoie, même pour les autres studios qui auraient envie éventuellement de se risquer à faire un portage Stadia, c'est quand même assez terrifiant.
Ouais, là c'est quand même très dur. Hein. Je sais pas comment. Enfin, en termes d'image, Stadia c'est quand même en dessous de tout en ce moment. On peut pas dire le contraire.
Bah, ça fait une sacrée pente à remonter en fait.
Ouais.
Exactement. Si tant est qu'il y arrive et qu'ils en aient envie.
Mais bon. On va passer à des choses un peu plus joyeuses maintenant, encore une fois, avec le premier thème, messieurs, dames. Et le premier thème, quel est-il ? Eh bien, c'est le Nintendo Direct. Ça faisait un an et demi qu'on attendait un nouveau Nintendo Direct. On se disait, ah, Nintendo, quand ils vont revenir avec un Nintendo Direct, directly to us, bah, il va y avoir du Bayonetta 3, il va y avoir du Metroid Prime 4... Il va y avoir, je sais pas, l'adaptation de Mother 3 remasterisée peut-être. On s'imaginait tous des trucs de fou. Et finalement, c'est pas exactement, pas toi Thomas.
Non.
Non, moi non plus. Je me suis pas enflammé non. Comme ça parce que ils avaient précisé que c'était des jeux pour la première moitié de l'année. 2021. Et donc pour moi, si ce sont des trucs à relativement court terme comme ça.
Attendez, tous les deux, vous m'avez dit, on va faire une vidéo pour dire. Qu'on est incroyablement hypé, qu'on sait des choses sur le Nintendo Direct, qu'on a des infos, etc. Vous m'avez dit ça tous les deux.
Non, nos infos.
En plus, non mais attendez, vous n'allez pas. Quand même, c'est pas sympa de me laisser comme ça dans la panade.
Alors que les plans ont changé, ok.
Ok, d'accord, très bien.
Non, mais sois en fait, responsable de ta propre crédibilité, mon cher.
On pouvait imaginer des choses par rapport à ce Nintendo Direct, mais au final, il s'est quand même révélé un poil décevant, disons-le, par rapport à ce qu'on aurait pu espérer, notamment. Les 35 ans de Zelda. Parce que Zelda a 35 ans depuis quelques jours et que malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas trop cette version, ben, va falloir faire avec un remaster de Skyward Sword qui n'est pas forcément l'épisode le plus aimé de la saga, mon cher Thomas.
Ce troll était formidable quand même.
C'était un troll assez, on
reprend sur le fait que Aonuma est arrivé, il était tout seul face à l'écran, fond noir. Son petit sourire habituel pour dire « Ah, je vois que vous êtes là et que vous attendez des nouvelles de la suite de Breath of the Wild. » Eh ben désolé, il n'y en aura pas aujourd'hui. Par contre, on vous a laissé un petit truc et c'est Skyward Sword, le petit truc.
Il fallait un petit peu s'en douter quand même parce que bon, on l'a pas revu depuis son annonce pendant le Nintendo Direct de l'E3 2019. On a eu Hyrule Warriors qui est venu pour colmater un peu les trous justement et offrir du Zelda aux joueurs qui en voudraient. Et bon, là voilà, effectivement, Aonuma a rapidement balayé les espoirs en disant bah, il faudra revenir plus tard. C'est pas parce que c'est les 35 ans de cette série qu'on va vous montrer quelque chose. Donc on imagine que le développement continue, mais du coup, à la place, effectivement, tadin, le remaster HD. Bah, du dernier épisode en 3D qui n'y avait pas eu droit jusqu'à présent, donc Skyward Sword, l'épisode maudit sorti sur Wii U en 2011, alors j'imagine qu'on va sans doute trouver des lecteurs chez nous qui ont passé un bon moment sur Skyward Sword, moi je sais qu'en tout cas c'est pas du tout mon cas, c'est un épisode qui est allé jusqu'au bout d'une logique qui ne fonctionne plus, c'est un épisode corseté, dirigiste, bavard pour rien, et ça m'a d'autant plus fait rire qu'Aonuma, en expliquant quelles sont les mécaniques qui ont été introduites dans Skyward Sword, disent oui, peut-être que ceux qui ont découvert l'univers de la série avec Breath of the Wild vont trouver des parallèles avec Skyward Sword, etc. Je pense que tu peux pas avoir deux épisodes plus opposés en termes de game design que ces deux-là, mais par contre, je sais qu'il y a quelques temps, je me demande si c'était pas Aonuma lui-même qui avait dit, mais vous comprenez, faire un remaster de Skyward Sword, ça va être quand même compliqué parce que la Wiimote, les déplacements de l'épée au niveau du motion gaming, tout ça, c'est pas forcément évident. Et l'une des surprises, finalement, c'était que le jeu allait évidemment être jouable avec les Joy-Con en mode motion gaming, donc avec le bouclier dans une main, l'épée dans l'autre, mais quid de la Switch Lite ? Eh bien, en fait, le gameplay a priori été adapté au stick droit. Donc on pourra diriger l'épée avec le stick droit pour résoudre tout un tas d'énigmes, combattre aussi des ennemis, parce que c'était une... Oui, je te vois dubitatif, mon cher Plume, mais j'attends de voir ce que ça va donner aussi. Surtout pendant les très nombreux combats contre le boss un petit peu récurrent de cet épisode, qui nécessitait d'être très précis au niveau du maniement de l'épée, et qui était pas loin de rendre fou par moment. Bref, on va voir ce que ça donne. En tout cas, bon, on va dire que Nintendo poursuit sa logique de remaster. Hein. On avait eu The Wind Waker sur Wii U, Twilight Princess qui était aussi sorti en remaster HD. Bon, bah, il en restait un. Le voilà. On espère très honnêtement que c'est pas le seul jeu qui va venir fêter un petit peu les 35 ans de la série, parce que quand on regarde ce qui a été fait pour Super Mario Bros. À côté, on a quand même eu beaucoup plus de réjouissances, de titres, même de goodies qui sont sortis. Voilà, moi j'espère qu'il y aura d'autres annonces, parce que c'est vrai que la perspective de rejouer à Skyward Sword, à plus forte raison en 2021, quand on a eu la liberté incroyable offerte par Breath of the Wild, ça va piquer sévère.
Ouais, quand on n'a pas eu Faye aussi qui vient parler pendant des plombes et des plombes pour dire des choses absolument évidentes. Ouais, c'est le lancer de bombe, c'était la pire chose que j'ai jamais vécue dans Skyward Sword. Le motion gaming sur le lancer de bombe qui marchait une fois sur 100 quand il fallait aller très vite en plus par moment, c'était infernal. Oui, Romain.
De mémoire, Skyward Sword, ça avait pas, l'annonce elle n'avait pas été foireuse. Miyamoto n'avait pas super galéré sur scène pendant un E3 ou un truc pour y jouer.
Ils avaient demandé aux journalistes d'éteindre leur mobile devices, tu sais, parce que c'était peut-être des ondes qui parasitaient la reconnaissance de mouvement.
C'est toujours la faute des journalistes, de toute façon. Mais moi, pour le coup, Breath of the Wild 2, je ne m'attends pas à ce qu'il soit annoncé ou montré en détail avant l'annonce de la nouvelle Switch. Pour moi, l'un va avec l'autre, tu vois. Il sortira sur la Switch classique aussi, ils vont nous faire un coup à la Twilight Princess, tu vois, un jeu qui sort sur
Breath of the Wild.
Breath of the Wild aussi, oui, un jeu qui sort sur les deux machines en même temps, mais ça serait un bon moyen d'être une vitrine et de donner encore plus envie aux gens d'acheter la nouvelle Switch, tu vois, genre ouais, il sort aussi sur la Switch normale, mais si je veux profiter des améliorations, il faut que j'aie la nouvelle. Donc je pense que ce sont deux jeux qui pourraient bien aller l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas trop accentué le côté 35e anniversaire, machin, parce que justement, ils ont ce truc-là qu'ils doivent garder pour un peu plus tard.
Ouais, et c'est pour ça aussi qu'ils ont annoncé une extension à Hyrule Warriors, au passage, l'ère du fléau, qui va récupérer lui aussi quelque chose en plus dans le courant de l'année. Dans les annonces donc, de ce Nintendo Direct, ça a commencé avec Super Smash Bros, évidemment, avec la présentation de deux personnages de Xenoblade Chronicles 2. Voilà, bon, pas de quoi non plus pour les joueurs qui ne sont... Pour nous qui ne sommes pas des grands, grands joueurs de Super Smash Bros, c'est pas forcément l'annonce du siècle non plus.
Ouais, ça a produit ses effets parce que d'un coup, au Japon, les joueurs japonais se sont jetés sur Xenoblade Chronicles 2, en tout cas pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Et le jeu s'est arraché cette semaine, il est même en rupture dans certains magasins, alors qu'il est sorti quand même depuis belle lurette. On se rappelle que c'était un des premiers jeux qui avait été annoncé sur Switch lors de l'annonce de la console.
C'est exact. On a eu droit aussi à pas mal d'annonces de... portage, remaster, évidemment, c'était un peu ça d'ailleurs l'essentiel de cette présentation. Le premier dont j'ai envie de parler, c'est Miitopia, parce que j'avoue que c'était le truc auquel je m'attendais pas. Voilà, sorti de nulle part. Voilà, tiens, vous vous rappelez de Miitopia, les mecs? Oui, bah on va le remettre. Alors, ok, d'accord, pas de problème.
Il y a un mec qui a dû répondre non à la question quand même.
Non, ouais, mais c'est-à-dire qu'on a pas eu le temps. Combler le calendrier, les gars. Va falloir qu'on sorte des trucs. Donc, qu'est-ce qu'on peut balancer rapidement là? Hey, Miitopia. Ah ouais, bon coup, on y va.
Bon voilà, pourquoi pas, Miitopia.
Il n'y avait plus de jeux Wii U, donc ils sont allés regarder sur les applis, tu vois.
Bientôt la compilation des jeux Street Pass.
je préférerais, figure-toi.
Ouais, j'aimais bien les jeux Street Pass aussi.
Voilà,
une semi-blague, parce que ça, j'aimerais bien quand même.
Parce que Fall Guys aussi donc arrivera en 2021, pareil sur Xbox One d'ailleurs, Xbox One et Xbox Series X au passage, on l'a signalé un peu après. Outer Wilds aussi, un des meilleurs jeux de ces dernières années, pour Thomas, pour Puy et pour d'autres. Legend of Mana aussi, qui va être masterisé, n'est-ce pas?
Et traduit. Pour la première fois, puisqu'il était inédit en Europe lorsqu'il est sorti en 99 sur PlayStation. Et ben, il y a... je crois que c'était quelques jours avant justement l'annonce, Square Enix se félicitait d'avoir vendu 1 million du remake de Seiken Densetsu 3, donc Trials of Mana, qui avait du coup connu un petit succès, quoi. Et bah, coup sur coup, là, on voit que l'épisode qui suit dans la chronologie de la saga, Legend of Mana, fera lui aussi l'objet d'un remaster HD. Je sais pas pour toi, mon cher Plume, mais moi, j'ai plutôt hâte de le redécouvrir, parce que j'ai gardé de très très bons souvenirs de cette aventure.
Je l'avais trouvé très très moyen quand je l'avais, je sais plus, de quoi, 98, 99, je sais plus.
99 au Japon, ouais. Et 2000, je crois, aux USA.
Ah ouais, mais non, moi il m'avait pas du tout plu, je dois avouer que c'était la période où déjà on avait une overdose de RPG, d'action RPG un peu partout, et qu'on avait des trucs de chez Square Enix qui commençaient un peu à baisser en qualité, et lui par exemple en faisait partie pour moi. J'étais pas du tout j'en trouvais pas du tout la magie qu'il y avait dans Secret of Mana avec celui-ci. Mais bon, après, c'est un souvenir. Ça se trouve, si je retourne dedans, ça, mon avis changera, je ne sais pas trop. Dans les autres annonces, y avait un Mario Golf aussi, parce que mine de rien, Mario Golf, ça reste cool.
Oui, surtout que c'est Camelot qui s'y colle une nouvelle fois. Donc, ils ont fait Mario Tennis Aces il y a quelques années sur Switch. Et là, du coup, ils reviennent à leur amour du golf, parce que c'est eux qui s'occupent de la série depuis quasiment ses débuts, je crois. Et qui s'en occupe super, vraiment super bien, avec beaucoup, beaucoup de talent. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, en plus du mode story qu'on va retrouver, qui est classique depuis le premier opus, je crois, sur Game Boy Color, il y a un mode multijoueur assez barré, dans lequel, en fait, c'est toujours votre tour de jouer. Il faudra s'affronter en temps réel, courir sur le green, pousser ses adversaires, utiliser des items cheatés, comme dans Mario Kart, pour prendre de l'avance. Et ça s'annonce quand même très très rigolo. C'est un mode qui m'a tout de suite fait très envie lorsqu'on a découvert la bande-annonce. Et le jeu arrive là au mois de juin, donc c'est chouette, ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir l'essayer.
Bon, et Kaamelott, si jamais vous nous entendez, vous savez qu'il y a plein de gens qui veulent du Golden Sun à nouveau, ou Shining, hein. Un Shining, ce serait pas mal non plus, hein. Sega, si vous nous écoutez.
Je Shining pense Force... qu'ils sont au courant.
Shining Force 3, par exemple, si vous avez envie de les refaire avec trois scénarios, qu'on puisse les avoir officiellement aussi en Occident, on est preneur. Bon, voilà, c'était un petit mot comme ça, au cas où, hein, des fois que chez Sega, on nous écoute, ça peut arriver des fois.
Ça peut arriver.
Surtout si c'est notre ami, la légende, Romain, qui nous écoute. Sache que tu viens quand tu veux. Voilà. Dans les autres annonces ou retours un peu sur le devant de la scène, il y avait le No More Heroes 3 de Suda 51, évidemment. Je ne me prononcerai pas, je ne suis pas du tout un fan de No More Heroes, personnellement, et je dois avouer que ça me laisse un peu encore de marbre. Mais j'imagine que les fans, eux, ils trouvent leur compte.
Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas fait un très bon jeu, Suda Goichi.
C'est déjà arrivé ?
Il y a un petit moment quand même. Alors là t'es mauvaise langue.
Je suis très mauvaise langue. Non, mais en plus, le mec est bien, il est sympa.
Il est très sympathique, mais ses dernières productions, franchement, ça laisse quand même à désirer. Quoi.
Bon. C'est pour ça que je suis content. En fait, je suis toujours content quand je vois un de ses jeux annoncés, parce que je me dis qu'il continue de taffer, il continue de lui filer des projets, etc. Donc il n'est pas en galère, mais c'est vrai que c'est...
Bon, c'est lui qui dirige Grasshopper après, donc ça doit être un peu facile aussi de plancher sur ses propres productions, tu vois, mais... Mais je sais pas jusqu'à quand le public va suivre, tu vois. Enfin,
le public suit pas vraiment de base. les derniers jeux de Suda sont pas des grosses ventes, tu vois. Ça reste quand même assez niche. Mais bon, il a une réputation et il continue de virevolter, de vivoter plutôt avec cette réputation.
Ah bah c'est une rockstar, hein. Voilà, tout simplement. C'est ça. Et c'est bien. D'ailleurs, il en faut.
Moi, il m'a perdu avec le Lollipop Chainsaw. Depuis ce temps-là, j'ai un peu plus de mal. Mais...
Ensuite, dans les autres annonces de ce Nintendo Direct, peut-être les trucs vraiment mineurs, il y a l'arrivée d'items et déguisements de Mario dans Animal Crossing. Voilà, bon, on le mentionne pour histoire de dire.
Parce que Animal Crossing... vendre quelques millions de plus.
Voilà, parce que Animal Crossing va continuer à se vendre, et parfois à cause de ça uniquement. Et puis il y a eu des surprises quand même. Voilà, on les a gardées pour la fin. La première, c'est un nouveau jeu du studio d'Octopath Traveler, donc qui s'appelle pour l'instant Project Triangle Strategy. Thomas. Alors,
je me permets de te corriger, c'est pas la team Asano pour l'instant qui est derrière, c'est Hardink qui le développe. Donc,
j'ai mal compris.
C'est dans l'esprit, on va dire, ça s'insère dans cette gamme de jeux dit HD 2D de chez Square Enix, mais c'est pas la team Asano qui est derrière.
Autant pour moi, j'étais sûr que c'était le cas. Mais voilà, c'est le même esprit parce que visuellement, on reste avec. Du pixel art sur fond de décors en 3D qui baignent dans des effets de lumière qu'on ne voit pas forcément dans des jeux en 2D, enfin dans des jeux avec beaucoup de 2D. Et
un filtre sépia.
Ouais, un espèce de filtre étrange avec ses effets de lumière assez magnifiques. Ça sera donc un jeu de. Un tactical, tout simplement, dont une démo est proposée. Sur l'eShop, au passage. Parce que comme pour Octopath Traveler ou encore Bravely Default 2, Square Enix s'est dit que c'était une bonne idée de proposer des démos pour avoir des retours des joueurs, pour savoir un petit peu comment les joueurs ressentaient la proposition du jeu. Et le jeu sort donc en 2022 sur Switch. On a largement le temps de le voir venir. Et pour ceux qui l'ont essayé, ça a l'air d'être une plutôt bonne surprise.
Il y a de très bonnes idées. Après, il y a plein de petites choses à régler un petit peu plus finement. Mais sur le game design en soi, il y a vraiment plein de choses qui marchent bien. L'ambiance est très chouette. Alors, c'est un jeu qui s'annonce quand même très narratif. Il y a beaucoup de phases de parlotte. Il y a énormément de scènes qui mettent juste en avant le déroulement du scénario, mais qui permettent aussi d'avoir les différents points de vue. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans la démo, c'est que ça illustre le moment où tu dois véritablement faire un choix, parce que l'une des mécaniques, c'est cette balance, en fait, qui résulte du choix du collectif. On a une petite troupe d'une dizaine de personnages et qui vont, à un moment donné, devoir voter. Est-ce qu'on livre machin à l'ennemi ou pas ? On peut essayer de les persuader en ayant récupéré avant ça des arguments. Et la démo permet, en fait, en reprenant une sauvegarde, de faire les deux cheminements. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'impact au niveau du monde et même au niveau de la mission qui suit, enfin du combat qui vient après. Et on sent à quel point l'impact d'une décision va changer le monde, les alliances, parce que c'est comme dans le dernier Fire Emblem, trois royaumes principaux qui structurent le monde et qui sont en guerre à cause d'un espèce de traître. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est pas le côté embranchement scénaristique. Là, pour le coup, ça a pas l'air d'être un gimmick. Il y a des vraies raisons de refaire la partie et de voir ce qui a pu changer dans un cas comme dans l'autre. Et de ce point de vue-là, ça s'annonce quand même assez chouette. Après, voilà, en termes de game design, il y a plein de petites choses à régler, mais j'imagine que les nombreux retours des joueurs vont leur permettre, comme les deux exemples que tu as cités, de corriger un petit peu le tir et de pondre quelque chose de très satisfaisant en 2022. En tout cas, en termes d'ambiance, de design visuel, de musique, etc., c'est quand même très très chouette pour l'instant.
Très bien. Et puis, la dernière énorme annonce de fin de Nintendo Direct à laquelle personne ne s'attendait, c'est évidemment Splatoon 3 qui arrivera en 2022. Incroyable Splatoon, toujours là. La licence née sur Wii U qui a rencontré un succès assez dingue et qui donc va se voir offrir un troisième épisode qui a l'air beaucoup plus dark, limite Mad Max. Non mais vraiment,
hein. Les zones de la maturité.
Ben oui, non, mais ça a l'air carrément sombre.
Ah ouais. J'ai limite eu peur tout à l'heure.
Non mais attends, mais c'est un truc post-apocalyptique, Romain.
C'est ça qu'il y a eu Peggy 18 au début du Nintendo Direct, c'était juste pour Splatoon 3, mais si ça n'avait pas été là, on aurait été sur un truc moindre.
Bon bref, il n'y a pas de grosse surprise, ça n'a pas l'air très différent de Splatoon 2 pour l'instant, mais les fans...
J'espère que si, parce que Splatoon 2, c'était quand même Splatoon 1,5, quoi, donc là, il faut qu'ils profitent du temps qu'ils ont eu. Non, mais il faut qu'ils profitent du temps qu'ils ont eu pour faire un vrai nouvel épisode, parce que pour ceux qui n'ont pas acheté les DLC de Splatoon 2, t'es quand même face à un truc qui est presque du copier-coller, quoi. Donc j'ose espérer qu'ils vont vraiment avoir creusé un petit peu les modes de jeu et changé la formule, sinon quel intérêt ?
Exact. Voilà. Et puis.
Je voulais juste glisser un petit mot sur un jeu qui a été annoncé dans le Nintendo Direct japonais et uniquement le Nintendo Direct japonais. En fait, c'est une sorte de crossover spirituel entre le manga Crayon Shin-chan, qui est un truc super connu au Japon et un peu en Occident aussi, mais qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et qui met en scène un petit garçon totalement espiègle. C'est assez comique, c'est assez drôle. Donc un crossover entre cet univers-là et la série de jeux My Summer Vacation. C'est une série qui existe depuis la PS1, qui a eu des épisodes sur PS1, PS2, PSP, PS3. Enfin, c'était très Sony jusqu'à présent. Et donc, ce jeu-là, pour ceux qui ont vu, ça a fait assez forte impression parce que bah, ça raconte évidemment les vacances d'été dans la campagne japonaise de Shin-chan et sa famille. Mais les décors sont magnifiques. Et ça, l'ambiance a l'air canon. Et après, évidemment, les activités, c'est très proche des jeux My Summer Vacation, Summer Memories, enfin, je ne me souviens plus exactement du titre. Mais donc, ouais, c'est de la pêche, de la chasse aux insectes, etc. Avec l'humour de Shin-chan par-dessus ça. Mais l'ambiance visuelle est top. Et en ces temps où on ne peut pas voyager, où on est un peu bloqué chez nous, un jeu dépaysant comme ça qui t'emmène dans la campagne japonaise, je trouvais ça super, super séduisant, ça m'a vachement donné envie d'y jouer. Et apparemment, il y a eu une sorte de petit buzz en Occident au sujet de ce jeu-là, parce que ça a obligé le créateur du jeu à venir dire sur Twitter « Oui, je vais faire mon possible pour le faire sortir en Europe, parce que la thématique et les licences concernées, etc., ce sont des trucs très, très japonais. Mais ça a attiré les gens. Et donc, il y a peut-être une petite demande autour de ce truc-là. Alors, je dirais d'office, si ça finit par sortir chez nous, je conseille aux joueurs intéressés de se le procurer rapidement. Parce que je pense que le tirage pour un jeu comme celui-ci sera pas en physique, évidemment, sera pas
s'il
énorme.
S'il tentait qu'il sorte en physique.
Voilà, s'il sort et qu'il sort en physique chez nous, je pense qu'il faudra pas rater le coche parce que celui-là, il risque pas d'être édité en beaucoup d'exemplaires et donc il risque de devenir assez rare assez vite. Mais en tout cas, moi, ça m'a vachement fait envie et ce petit voyage virtuel me plaît bien et donc je croise les doigts pour que ça sorte. Si vous n'avez pas suivi et que vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait une news dessus sur Gameblog avec le trailer, donc je vous invite à aller voir ça parce que ça a l'air vraiment très très sympa.
Très bonne ambiance, feel good.
Très bien, très bien. Écoutez, après je pense que on peut on va parler d'un dernier truc puisque ça a été placé dans le listing que j'ai sous les yeux. C'est un jeu qui n'est jamais arrivé en Occident et qui là a été annoncé durant le Nintendo Direct, c'est Famicom Detective Club. Alors, c'est une série de jeux, pour être exact, si je ne m'abuse. Alors,
c'est deux épisodes en fait, qui étaient sortis sur Famicom au Japon, qui vont sortir compilés là en l'occurrence, alors au Japon en version physique évidemment, puisque ce sont deux jeux qui ont quand même marqué la culture vidéoludique japonaise. Pour vous donner l'importance du jeu, même si on ne le connaît pas ici, c'est de Famicom Detective Club que Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest, a puisé les fenêtres en fait textuelles et contextuelles qui sont utilisées dès le premier Dragon Quest. Donc voilà, c'est historiquement, c'est un jeu qui a pas mal d'importance, en tout cas pour les joueurs japonais. Là, on va pouvoir en profiter, au moins en anglais, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il ne va pas être traduit en français. Mais voilà, c'est un visual novel qui va être complètement remis au goût du jour. On aura les deux épisodes d'un coup. Et c'est plutôt chouette de pouvoir les découvrir enfin, après des décennies d'ignorance pour les joueurs européens. Moi, ça me tente quand même, parce que j'ai toujours entendu parler de ce jeu sans pouvoir véritablement l'essayer. Donc c'est chouette de voir que Nintendo fait aussi là-dessus, sur un jeu qui est quand même vraiment un jeu de niche, un travail de localisation.
Et ils sont refaits en plus, non ? C'est pas,
ils oui, ont oui,
pas,
ils sont pas, complètement voilà. Retravaillés.
Ce ne sont pas les jeux Famicom portés tels quels sur Switch.
Ça donne toujours de l'espoir pour Mother 3, tout ça. On ne sait jamais, avec un peu de chance.
L'espoir fait vivre.
Ouais. Et ben, on va passer maintenant à la deuxième thématique de ce podcast, qui forcément concerne en plus haut point Romain et Thomas, les grands fans de Blizzard. Voilà, depuis le début.
Je mets mon micro en mute. Hein.
Ouais, ok. Parce que ce week-end avait lieu la BlizzCon Online, donc qui est la version 2021 confinée de la BlizzCon qui ne s'est pas tenue donc en septembre dernier, comme elle aurait dû, à cause de ce que vous savez. Blizzard fête ses 30 ans cette année. Ça aurait pu être une fête, on va dire, incroyable de la part de ce studio. Malheureusement, c'était un petit peu en dedans. La cérémonie d'ouverture a été, on va dire, un peu moyenne. Alors, surtout ce qu'on en retient, et c'est assez amusant, c'est qu'en fait, il y avait une performance de Metallica, quand même, qui est un groupe mythique de rock'n'roll, comme on dit, et une petite performance maison où on voyait Lars Ulrich et autres tranquillement dans la cave de je ne sais pas lequel d'entre eux commençaient à jouer un morceau, et Twitch à trouver, on va dire, judicieux pour éviter les DMCA un peu trop intrusifs, et bien de remplacer la musique par un truc un peu bizarre. Je ne sais même pas ce que c'était en plus comme musique, mais c'est, normalement c'est quelque chose qu'on imagine fait par un tweetos, tu vois, qui se dit tiens, pour m'amuser, je vais remplacer, je vais mettre un truc par-dessus. Et là, très sérieusement, Twitch a fait ça pour éviter que la vidéo soit strikée à un moment ou à un autre. Donc Metallica qui joue un truc bizarre, je ne saurais même pas dire quoi. C'est ce qu'on a retenu en premier lieu, heureusement. Heureusement, il y a eu d'autres choses. Romain, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
Ouais, juste parce que si vous suivez l'histoire du piratage de la musique en ligne et des services de téléchargement, je trouve que là, c'est un bouclage de boucle qui est assez magique, parce que si vous vous souvenez, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est Napster, à la fin des années 90, sur un des premiers services de téléchargement slash de piratage de masse sur Internet. Le peer-to-peer. Et Metallica était rentré en guerre contre Napster, justement, parce qu'ils voyaient leurs chansons partagées de manière illégale sur Napster. Donc, c'est un des premiers grands groupes qui s'est battu vraiment contre le téléchargement, contre le streaming, le piratage, etc., etc. Et donc, les voir eux-mêmes en cours d'un concert officiel, voir leur musique remplacée pour éviter des problèmes de droits d'auteur et tout sur Internet, je trouve ça assez, assez savoureux.
Voilà. Oui, c'est savoureux. Et en même temps, ça montre l'absurdité de certaines situations, quand on sait que des fois Google arrive à se striker soi-même, lui-même, pardon, ou d'autres, c'est, enfin bref. Ou même Ubi, je crois, qui arrive à striker ses propres vidéos, ou Sony, enfin bref. On se retrouve avec des situations complètement incroyables. Mais il y a eu d'autres choses, évidemment, qui ont été montrées durant cette cérémonie d'ouverture. On a pu découvrir la prochaine extension classique de World of Warcraft, Burning Crusade classique, que les fans connaissent bien. Quelques coulisses sur Overwatch 2, qui ne sortira décidément pas cette année, comme Diablo 4 d'ailleurs, qui est lui à montrer la Rogue, qui sera donc la prochaine classe qu'on pourra peut-être essayer en bêta, je ne sais pas. Hearthstone aussi a révélé une extension, Forgée dans les Tarides, qui là intéressera plutôt Eva. Et il y a eu quand même deux annonces de jeux qui ont été faites, dont une qui avait été éventée quelques heures auparavant, c'est la Blizzard Arcade Collection. Petite compilation de trois jeux qui datent de 92, 93 et 94, donc ça ne nous rajeunit pas vraiment. Des jeux qui sont parmi les premiers succès donc, de Blizzard, bien avant qu'on parle de Warcraft 3 ou de World of Warcraft ou de Starcraft. Ce sont Lost Vikings, jeu de puzzle, de réflexion, dans lequel on incarne trois vikings les uns après les autres qui vont devoir collaborer pour essayer d'évoluer dans des niveaux où leurs compétences propres vont servir. Jeu exceptionnel, vraiment, de l'époque, auquel on a le droit donc de rejouer avec cette collection. Le deuxième, c'est Rock'n'Roll Racing, un jeu en 3D isométrique, un jeu de course en 3D isométrique qui, à l'époque, était aussi assez excellent dans son genre. Et le dernier, c'est Black Hawk. Alors, pour nous, c'est Black Hawk. Dans le reste du monde, c'est Blackthorn, qui, lui, est un flashback-like. Vraiment, vous regardez les animations du jeu, pour ceux qui l'ont connu, c'est exactement comme flashback dans les sauts, dans les courses, dans la façon dont il s'agenouille. Ça ressemble énormément à un flashback, mais c'est un autre, évidemment un autre univers. Et lui aussi, jeu très apprécié de la Super Nintendo. Donc, trois jeux plutôt sympas pour 19,99€ sur PC, mais aussi sur console, disponibles déjà, avec aussi des bonus, évidemment, si vous êtes un gros fan de Blizzard. Vous payez un peu plus et vous avez droit à des petits bonus pour les jeux auxquels vous jouez déjà actuellement. Oui, Thomas.
Et juste une précision pour Rock'n'Roll Racing, puisque selon les mots d'un de nos anciens présidents, les emmerdes, ça vole en escadrille. Il y a aussi eu un problème au niveau des droits, puisque je crois que c'est Blizzard qui a déjà prévenu les joueurs en disant si vous le streamez, coupez le son par rapport justement au DMCA. Donc on est dans une thématique assez globale finalement, où tout se recoupe et où les problèmes jaillissent d'un petit peu partout. C'est quand même assez rigolo. Ils n'ont pas eu leurs questions gênantes cette année, puisqu'il n'y avait pas de public, mais il y a quand même eu quelques couacs.
Bon, bah voilà, donc, mais ça fait toujours, c'est toujours ça, vous pourrez toujours jouer à ces trois jeux-là, quoi qu'il arrive. Et évidemment, le plus gros, on va dire, de ce BlizzCon, de cette BlizzCon Line, c'est l'annonce officielle, cette fois, de Diablo 2 Resurrected. Voilà, Vicarious Visions, donc, qui a été fusionné dans Blizzard il n'y a pas très longtemps, travaille bien sur un remaster 3D de ce légendaire hack and slash sorti durant l'été 2000, fin juin 2000 pour être exact, et ça arrivera cet été sur PC et console. Il y a beaucoup de choses qui sont promises, évidemment, avec ce Diablo 2 Resurrected. Pour commencer, il sera affiché évidemment en 4K, il sera ultra fluide, il sera ultra beau, parce que ce ne sera pas un simple un simple lissage des graphismes comme on peut avoir par exemple avec Diablo sur GOG, le premier Diablo, mais vraiment une totale refonte du jeu, même si l'original lui sera toujours présent. Eh bien, vous aurez droit à un jeu qui est tout en 3D, refait complètement, avec des animations refaites. Et, si vous allez dans la news d'annonce du jeu, vous verrez que les modèles de chacune des classes ont été refaits et sont mais beaucoup plus détaillés que ce qu'ils étaient à l'époque. Le rendu est plutôt pas mal. On nous annonce aussi que l'ambiance sonore va être retravaillée, compatible 7.1, bref, tout ce qu'il faut pour que le jeu soit encore plus agréable et modernisé. Même les cinématiques de l'époque, rappelez-vous les cinématiques qui étaient mais monstrueuses, elles ont été refaites. Et vous pourrez jouer à ça en coopération à 8 joueurs, en plus, bref, que du bonheur pour les 21 ans donc, de Diablo 2 qui reviendra pour cette version Resurrected avec son extension, évidemment, Lord of Destruction. Grand jeu qu'on espère redécouvrir dans les meilleures conditions, et pas comme avec le remaster de Warcraft 3 qui, lui, s'est pas bien fait réceptionner, malheureusement, parce qu'il n'a pas eu le polish nécessaire. Voilà pour la BlizzCon Online, donc, finalement, qui était un peu en dedans pour les 30 ans de Blizzard. On espère qu'ils auront d'autres choses à nous montrer. Je sais pas. Pourquoi pas une date prochainement, une date officielle pour Overwatch 2 et Diablo 4, qui de toute façon n'arriveront pas cette année, ça c'est sûr. On verra bien. On va finir avec deux jeux qui nous en ont fait chier. Enfin, moi, je parle pour moi déjà. Moi, je sais que le mien, il m'en a fait énormément chier. Et toi, Ghosts and Goblins Resurrection, on reste dans la résurrection, vous avez vu, que tu as l'air d'avoir apprécié, j'ai le test sous les yeux. Est-ce que vraiment, en 2021, c'est sérieux de faire des jeux qui ont l'air aussi durs?
Bah écoute, ouais, je pense que le succès d'une certaine saga Dark Souls nous l'a montré. Les gens veulent un petit peu souffrir, les gens veulent du défi, du challenge, de l'impossible. Et pour le coup, on était assez nombreux à s'être posé la question en découvrant au mois de décembre l'annonce justement d'un nouveau Ghosts and Goblins qui ne sort que sur Switch. Et on est quand même assez nombreux à s'être dit, oui, bon, est-ce que ça va pas être un peu casu, un peu tiré vers le bas, etc. Non, alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Capcom a eu la bonne idée d'aller chercher le réalisateur historique de la série, Tokuro Fujiwara, qui était déjà présent sur les tout premiers opus, qui a pas travaillé sur un jeu vidéo depuis Mad World chez Platinum. Donc c'est vous dire en fait à quel point ils sont vraiment allés le chercher pour essayer de retrouver un truc fidèle aux origines, et c'est exactement ce qu'est Ghosts and Goblins Resurrection. C'est un jeu qui est au moins aussi hardcore que Ghosts and Goblins, qui était quand même un jeu très très velu, un jeu qui est cher à mon cœur. Pour vous dire à quel point j'aime la série, c'est l'un des rares jeux que j'ai sur NES en boîte. Vous voyez, il est complet, c'est vraiment un jeu que j'adore. Et donc on retrouve en fait ce gameplay très action, très accessible et très immédiat, puisque on est face à la même situation, hein. Le chevalier Arthur voit sa belle Guenièvre se faire kidnapper et va donc devoir traverser 6 environnements différents pour la retrouver, en défaisant sur son passage quantité, mais alors turbo chier, de monstres qui vont popper, mais dans absolument tous les sens, pour vous faire la peau. Et heureusement, on a cette fois-ci plusieurs niveaux de difficulté, parce que quand même, on est en 2021, il en faut un petit peu pour tout le monde. Alors, quand vous lancez le jeu, vous avez justement ces 4 niveaux de difficulté qui apparaissent avec des flammes qui progressivement vont prendre tout l'écran pour vous montrer à quel point vous allez en baver. On a un mode classique à l'ancienne, 2 coups et vous êtes mort. Donc c'est le niveau de difficulté maximal par lequel je ne vous conseille pas de commencer. Et au fur et à mesure qu'on baisse justement en difficulté, on récupère un point de vie supplémentaire à chaque fois, donc avec 3, 4 et enfin le mode laquais qui vous permet de respawn en fait à l'infini. On peut forcer finalement.
Ça m'intéresse.
si tu veux absolument finir un niveau, finir le jeu, alors finir le jeu, pas tout à fait, parce que tu sais, c'est Capcom et c'est à l'ancienne, comme Konami dans les années 90, si tu finis le jeu dans le mode de difficulté le plus faible, on va te dire, bon, c'est bien gentil, mais en fait, t'as pas tout, maintenant, il faut s'attaquer à un vrai mode de difficulté, en fait. Donc, c'est plus un amuse-bouche, c'est plus une manière de découvrir, en fait, les environnements, qui sont... D'ailleurs, magnifique, parce que la première surprise en lançant le jeu, c'est de constater qu'il tourne avec le RE Engine. J'ai vu ça, je me suis dit, quoi ? Un jeu en 2D avec le moteur des derniers remakes de Resident Evil ? Ok, et ben en fait, ça marche super bien, parce que le jeu profite d'une direction artistique que j'ai trouvé canon, qui était étrange dans les premiers trailers, j'avais du mal
C'est des livres de contes moyenâgeux.
Oui, mais alors, il y a un vrai parti pris, en fait, dans la manière dont ça a été agencé. T'as l'impression que tous les ennemis, le sprite de ton personnage, tous les éléments qui bougent à l'écran sont vraiment sur une couche supérieure qui n'est pas tout à fait collée au background. Et elles sont animées un petit peu comme des personnages de papier, tu sais, qui auraient juste leur coude, leurs intersections de mobile. Et ça donne quelque chose de très, très chouette. On a vraiment une 2D qui est très fine, en fait, au niveau de la modélisation des personnages. C'est vraiment un jeu qui est très joli, qui est très agréable à regarder. On a des environnements qui sont extrêmement fouillés. On retrouve la galerie d'ennemis pléthorique de l'original, de tous les ajouts aussi, enfin de toutes les suites de la série Makaimura qui sont arrivées par la suite au fur et à mesure des années. Et donc, tout ce bestiaire va, évidemment, devoir vouloir vous faire la peau. Et on conserve en termes de game design vraiment les bases de la série. Donc on a un saut qui n'est pas possible de modifier une fois qu'on l'a lancé. Donc il faut vraiment faire...
Donc c'est saut soit sur place, soit à une distance donnée et totalement fixe devant et derrière.
Tout à fait. Ce sont les deux seules possibilités que vous avez pour sauter. Avec les 5 armes classiques de la série qui font leur retour, avec des petits bonus. Ça, c'est la base. Et heureusement, le jeu s'est inspiré notamment tous les roguelikes qui sont sortis depuis, puisque vous allez pouvoir récupérer dans chacun des environnements du jeu. Alors, au début, vous pouvez choisir les deux premières zones. Vous avez deux types de niveaux différents. Après, ça devient un petit peu plus linéaire, mais vous pouvez revenir et tous les faire. Et au sein de chaque environnement, on a des fées à trouver, des fées, en fait, qui vont vous permettre d'alimenter l'arbre de compétences qui s'appelle l'arbre de Brocéliande et qui va vous permettre de débloquer des attaques magiques, de pouvoir équiper une seconde arme et de switcher comme dans un contrat en fait entre l'une et l'autre, de débloquer de nouvelles magies qui vont par exemple transformer tous les ennemis à l'écran en grenouilles, alors pas les boss évidemment sinon c'est de la triche, retrouver l'attaque éclair que Arthur avait dans le premier épisode. Bref, au fur et à mesure de votre progression, vous allez quand même pouvoir enrichir la palette de coups, et c'est pas du luxe parce que vraiment le jeu est hardcore, mais hardcore comme le Nord, même si vous prenez le troisième mode de difficulté, donc celui qui ne vous permet pas de respawn à l'infini, qui vous propose d'avoir 4 points de vie, et ben vous allez quand même vraiment en chier. Moi j'ai commencé par celui-là et il faut s'accrocher parce que vraiment c'est un jeu qui prend un plaisir absolument sadique à vous troller, mais à vous troller dans absolument tous les sens. C'est-à-dire que non seulement les ennemis optent pour les trajectoires les plus habiles pour vous rentrer dedans, mais au-delà de ça, les items, par exemple les armes que vous pouvez équiper, des fois vont apparaître sur votre chemin et mettent un temps infini à disparaître. Et la plupart du temps, en fait, si vous voulez continuer, il faut passer et des fois changer d'arme et donc récupérer une arme toute bidon dont vous savez qu'elle ne va pas vous servir pour la suite. Il y a plein de choses comme ça, jusqu'à des petites plateformes, des branches en fait, qui au moment où vous arrivez, d'un coup s'affaissent et vous font tomber dans un trou, vous mourrez évidemment du premier coup, vous dites bah c'est pas grave, je vais sauter sur la suivante elle a un autre piège qui vous fait aussi mourir, et en fait chaque étape, il y a des niveaux où presque chaque pas que vous allez faire nécessite de mourir pour comprendre comment le level design fonctionne, et donc de recommencer encore, encore et encore. Heureusement, on a maintenant des checkpoints. On n'est plus sur un checkpoint unique en milieu de niveau comme c'était le cas dans l'original. Là, vous avez pas mal de marqueurs d'étapes qui vont vous permettre de recommencer des séquences. Mais ça ne le rend pas plus facile pour autant parce que entre deux drapeaux, des fois, c'est quand même très, très, très compliqué de survivre, même avec 4 points de vie parce que les ennemis sortent d'absolument partout. Il faut avoir des yeux. Mais dans tous les recoins, c'est incroyable à quel point le jeu vous sature d'ennemis. Et on est obligé du coup d'apprendre vraiment à la dure. C'est un jeu qui ne vous laisse aucun répit. et qui au début est vraiment très abrupte, mais au fur et à mesure, moi en tout cas c'est l'expérience que j'en ai eue, au fur et à mesure qu'on s'accroche, qu'on rentre dedans, on progresse en rageant, en mourant des dizaines et au bout du compte des centaines de fois, mais ça nous renforce et on finit par élever finalement son niveau de jeu. Et une fois qu'on a terminé l'aventure, alors évidemment, pour ceux qui ont rejoué à l'original, vous savez, vous connaissez le twist de la série Ghosts and Goblins, qui est que quand on arrive au bout, en fait, on a fait que la moitié du chemin. Ça se retrouve d'une autre manière dans cet épisode Résurrection, qui va vous demander de redécouvrir en fait les environnements que vous avez déjà parcourus sous un autre jour. Évidemment, encore plus compliqué, hein, sinon c'est pas drôle, c'eût été trop facile. Mais une fois qu'on a fait tout ça, on se dit, bah, finalement, maintenant qu'on a assimilé les mécaniques, on a un peu de visibilité sur ce que le jeu requiert en termes de skill, bah, on s'attaque au niveau de difficulté supplémentaire, et il paraît plus si imprenable qu'au début, en fait. Parce que si on se lance comme ça, de manière abrupte, avec la difficulté à l'ancienne, on se dit, non mais c'est impossible, jamais j'y arriverai. Et en fait, et bah, de fil en aiguille, en persévérant, on arrive à devenir meilleur, et moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir en fait à rager, mais ensuite à comprendre et à réussir à défier ce jeu vraiment à l'ancienne. C'est incroyable qu'ils aient réussi à conserver ce game design impitoyable qui est hérité des années 80 dans une version vraiment modernisée qui offre quand même tout un tas d'outils pour progresser. Et au-delà de ça, pour ceux qui voudraient vraiment se donner toutes les chances et pas forcément passer par le mode résurrection, enfin le mode respawn à l'infini, vous avez l'arrivée d'un mode coop qui est plutôt bien pratique parce que c'est pas un deuxième personnage égal à Arthur que vous allez incarner, c'est en fait trois esprits parmi lesquels le second genre va pouvoir switcher, qui ont tous les trois des capacités différentes. Il y en a un qui va protéger Arthur avec un petit halo qui va l'entourer, un autre qui va pouvoir tirer à distance sur les ennemis, matérialiser des plateformes, plein de trucs très pratiques en fait pour essayer de ne pas sombrer dans la démence la plus totale pendant qu'on y joue. Et bah, tout ça, mis bout à bout, ça fait que bah, on est face à quelque chose de vraiment très complet, de très dense et de très fouillé en fait en termes de durée de vie. Pour ceux qui vont progressivement vouloir gravir les échelons du mode de difficulté, on a beaucoup beaucoup de choses à faire, il y a énormément d'items à récolter dans les différents niveaux, de choses à découvrir, et le tout porté par une direction artistique, mais vraiment qui moi m'a vraiment marqué. Je m'attendais pas à ce qu'ils opèrent un tel travail sur cet épisode qui est quand même le premier sur console depuis 2006. Donc on sent que Capcom en fait a respecté le matériau d'origine, a réfléchi à la manière dont un Ghosts and Goblins pourrait être pertinent en 2021. Et ça marche vraiment. Si vous aimez les défis, si vous aimez un petit peu souffrir et apprendre à la dure, eh ben, il faut y aller, il faut sauter dessus, parce que c'est vraiment un très très bon jeu sur lequel j'ai pris énormément de plaisir et sur lequel je vais continuer à prendre du plaisir, parce que je suis loin d'avoir réussi à le finir dans le mode de difficulté suprême. Et j'ai quand même envie d'y retourner. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez envie de retrouver ce gameplay hérité d'une autre époque, bah, y a pas à hésiter. Le jeu sort là le 25 février, donc sur Switch, et si vous savez dans quoi vous mettez les pieds, hein, j'ai envie de vous dire, foncez. Foncez parce que c'est vraiment très bon.
Très bien. Bah, écoute, le mode Lakem plaît bien, personnellement, donc je pense que je vais d'abord essayer ça.
Voilà, c'est un point de départ, ça va te permettre...
En fait, ça m'a traumatisé. La version PSP qui était sortie donc il y a plus de 15 ans m'avait énormément traumatisé parce qu'elle reprenait justement ce saut que je déteste, que tu peux pas diriger et qui fait forcément toujours la même longueur, la même hauteur, et qui pour moi c'était affreux. Et donc du coup, j'hésite toujours à vouloir retourner dessus, mais c'est vrai que la direction artistique de cet épisode est quand même assez folle. Elle donne tout de suite très très envie, donc ce sera à voir. Je sais pas ce qu'en pense Romain pour ce Ghosts and Goblins, s'il est Yankli.
Bah, j'ai jamais trop joué à Ghosts and Goblins, mais c'est un truc qui me faisait de l'œil, et j'aime bien les ajouts justement faits à cette version là pour permettre de t'y mettre à ton rythme, progressivement, tu vois, genre t'es pas dans le dur immédiatement si tu décides de pas être mis dans cette situation-là d'emblée.
C'est tout à fait ça.
Donc, t'as t'as un moyen de t'y mettre à l'ancienne si tu le veux, si tu veux être remis dans les conditions d'époque, mais t'as un truc qui est plus adapté aussi à notre manière de faire aujourd'hui. Mais tout ça, pas pour te mettre dans un truc forcément plus simple, mais pour te permettre d'avancer. Enfin, c'est très éducatif presque comme, comme manière de faire, et j'aime bien la démarche.
Voilà, c'est l'éducation à coups de tarte dans la gueule, hein. Vraiment, c'est tu dois mourir sans cesse pour progresser et comprendre comment tout fonctionne.
Oui, mais malgré tout, t'as quand même cette sensation de progrès, justement. Enfin, c'est pas...
Ah bah, tu en retires une satisfaction, mais vraiment énorme. Mais comme les joueurs de Sekiro ou de n'importe quel Souls, quand tu réussis à défaire un boss et qu'il t'a pris des heures de travail, voilà. Quand tu y arrives, tu ressors de là, t'es un surhomme, quoi.
Sauf qu'un Souls ou un Sekiro, truc comme ça, il te donne pas d'outils supplémentaires, tu sais, pour essayer de t'y faire progressivement, tu vois. C'est là, un Sekiro ou un Souls ou un truc comme ça, ça correspond plus à la manière de faire qu'un Ghosts and Goblins avait à l'époque, tu vois. Là, t'as quand même des petits trucs en plus.
Bah justement, cette manière de faire de l'époque, c'est exactement ce que Cyber Shadow met en avant. Cyber Shadow, donc, qui est le deuxième jeu du Yacht Club, mais sauf que cette fois, ils sont éditeurs, puisque c'est une seule personne qui s'en est occupée. À mon avis, Yacht Club est passé derrière en faisant « Bon, alors, attends, ça, on va régler un petit peu, on va affiner. » Et Arne Hunziker, dit Mecascule, donc, yeah. Qui est le seul membre du studio Mechanical Head Games, il a fait un jeu qui, contrairement à The Messenger qui est sorti il y a quelques années, qui n'est pas du tout un jeu qui, en regardant dans le rétro, se dit « je vais quand même moderniser l'essentiel pour que les joueurs d'aujourd'hui puissent apprendre délicatement à progresser, il n'a pas voulu faire un jeu indulgent comme on peut en avoir aujourd'hui. Il a vraiment voulu que son jeu de ninja, Cyber Shadow, soit une expérience comme il y a 30 ans. Et c'est exactement ce que je me suis pris dans la gueule en y jouant. C'est-à-dire que j'ai repensé à Ghosts and Goblins, à Super Ghouls and Ghosts, à Ninja Gaiden, dont il s'inspire énormément, évidemment, et à Blue Shadow aussi, qui était un autre jeu NES qui m'a bien fait mal. Je parle aussi de Megaman, évidemment, et de TMNT, hein, parce que TMNT, qui était une sacrée saloperie, ce jeu pour le finir. Sur NES, oui, absolument.
Batman aussi.
Le Batman de Sunsoft, qui est une sacrée saloperie aussi, c'est vrai. Donc tous ces jeux-là, en fait, il a pris tous ces jeux-là et il les a mis dans un jeu ninja qui très très vite, vraiment, vous fait comprendre que vous n'allez pas progresser comme dans les jeux d'aujourd'hui, et qu'il y a un processus à respecter pour passer à un niveau. Donc il y a 11 stages environ, auxquels quand même il a bien voulu ajouter des checkpoints, ce qui est quand même un minimum. Merci d'avoir mis les checkpoints, parce que là...
Tu dis ça comme si c'était une concession.
Je pense que c'est une concession par
rapport à... Il a craché par terre quand il a mis son premier checkpoint dans un jeu.
Je pense que c'est une concession par rapport à l'intention du jeu, qui est vraiment de t'en mettre plein la tronche en permanence et de ne pas te laisser passer la moindre erreur. Donc, action et plateforme avec un ninja qui, au départ, ne peut que sauter et donner un coup d'épée, un peu comme dans Shinobi. Il ne peut faire que ça. L'opposition, elle, est un peu plus costaud. Il y a énormément de robots. Alors, je vous passe sur le scénario qui est grotesque, qui essaye de faire un truc un peu sérieux sur une quête de ninja qui doit essayer de sauver l'âme de sa maîtresse ninja, qui est aussi sa petite amie, qui est aussi la fille d'un espèce de docteur Willy du futur qui a levé une armée de robots. C'est assez grotesque, vraiment. Les seuls trucs qu'on retient, à la limite, c'est les noms des boss qui sont un peu rigolos. Si vous aimez les Laser Brain, les Combinatron, les Apparitor, les Mechadragon, bah voilà, ça au moins vous l'aurez, ça fera comme les années 80 et ça vous fera un peu marrer, et peut-être moins quand vous les affronterez, parce que les boss sont quand même assez costauds, même si eux, au moins ils ont des patterns qu'on arrive à déceler assez rapidement. Mais bref, quand vous avancez, l'opposition elle est nombreuse, vous ne voyez pas forcément les ennemis, surtout les volants et petits, et qui vous balancent des projectiles en même temps, arriver. Donc du coup, il faut être toujours aux aguets, parce qu'on aime bien dans le jeu, on aime bien vous mettre des fossés, évidemment, mais aussi des murs avec des pics et aussi des sols électrifiés. Et parfois, on vous les met au bout de plateformes mouvantes sur lesquels vous êtes déjà attaqué par d'autres créatures qui font...
Ça, on a joué au même jeu, en fait.
Alors, c'est à peu près le même style de jeu qui veut absolument te, pareil, te mettre une fessée, mais au final, ça finit plus comme une rouste, vraiment. Et en fait, tu gagnes. Dans ce jeu-là, tu gagnes des pouvoirs au fur et à mesure. Donc, tu vas gagner le droit de lancer des shurikens, le droit de faire une attaque qui va lancer des boules de feu vers le haut, une autre à la manière de DuckTales ou de Zelda 2 ou de Shovel Knight qui fait une attaque plongée vers le bas. Plus tard, tu as le droit de courir aussi, ce qui va te permettre d'avoir des sauts un peu plus allongés. Le double saut aussi va apparaître. Tu gagnes tous ces pouvoirs au fur et à mesure. Ils vont être évidemment sollicités pour que tu puisses profiter de certaines possibilités dans les niveaux dans lesquels tu vas avancer. Il y a notamment un dash aussi qui apparaît, c'est-à-dire que vous courez et juste derrière, vous devez attaquer en ayant la cible bien en face de vous pour vous téléporter jusqu'à cette cible. Et tu te dis, avec tout ça, normalement, tu deviens plus puissant. Je veux dire, logiquement, tu vas progresser plus facilement.
En fait, tu meurs plus vite.
En fait, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que le jeu devient encore plus exigeant avec toi. Il te demande, pour passer des enfilades d'écran qui parfois sont vraiment très longues, et vu le peu d'énergie que tu as dans le jeu, parfois tu te dis « Ah, là je vais me faire toucher, c'est pas grave. » Mais si, en fait, c'est très grave, parce que si, pour peu que cette enfilade d'écran continue encore un peu après, tu arrives, tu vois qu'il n'y a pas de checkpoint, et là tu te dis « Mais comment je vais faire ? C'est pas possible. » Et en fait, le jeu, il veut juste que tu sois parfait dans l'exécution en permanence. Voilà, c'est juste ça. Que ce soit pour passer dans les trois derniers niveaux, par exemple, il y a des moments où vous allez avoir aucune autre possibilité que justement de profiter de ce dash. Et il faut savoir que les manipulations sont extrêmement compliquées, pas parce que la prise en main est compliquée, en fait, c'est une prise en main NES. Et le parti pris est assez spécial, vraiment. C'est la croix directionnelle et deux boutons, attaque et saut. Et il va falloir faire les combinaisons vraiment de manière très précise. Pour le dash, que vous pouvez remapper, et je le conseille pour à peu près tout le monde, plutôt que de faire un deux fois vers la droite ou deux fois vers la gauche pour votre dash, je vous conseille de le mettre sur un bouton de tranche pour éviter justement de vous embrouiller. Mais le dash, et si jamais derrière vous devez enchaîner avec une parade, alors la parade, c'est mettre la direction du projectile qui vous arrive dessus plus l'attaque, sachant que si vous faites deux fois, si vous avez malheur de stresser un petit peu, vous faites deux fois la direction au lieu de le faire qu'une fois, bah vous allez vous retrouver à faire un dash et donc à filer directement vers le projectile. Bref, vous pouvez vite devenir fou si vous n'avez pas la maîtrise totale de vos mouvements et que vous stressez un petit peu et que vous avez les mains moites, ce que le jeu veut absolument que vous fassiez d'ailleurs. Il veut absolument vous faire stresser et faire que chaque parcours, ce soit un parcours du combattant. Et de ce côté-là, il y arrive très bien, mais je disais qu'on n'était pas forcément mieux armé parce qu'on gagnait des compétences au fur et à mesure et que le jeu continuait d'en mettre un peu plus plein la gueule avec plus de bestioles, plus de pièges qui vont vous faire ultra mal. En attendant, chose assez exceptionnelle, c'est que de mon côté, j'ai revécu exactement ce que j'ai vécu avec les jeux de l'époque dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est-à-dire une sorte d'obligation de le finir. C'est-à-dire que là, je l'ai fait parce qu'il y a le boulot, mais à l'époque, nous, quand on achetait un jeu, c'était 300, 400 balles d'argent de poche, et on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que TMNT ou Zelda 2, j'avoue, c'est un de ceux qui m'ont fait le plus baver avec Mega Man 1, t'as pas le choix, quoi. Je l'ai acheté, si je le finis pas, je veux dire, je suis une poule mouillée ou autre, quoi. Tu vois, j'ai les foies ou ce genre de truc. Et donc, là, j'y suis allé parce que c'est le boulot, mais je me suis vraiment remis à l'époque où on était obstiné, où on était persévérant, où on se disait, mais de toute façon, je vais y arriver. Le jeu n'est pas injuste, en plus. Le jeu se joue très, très bien, ça répond parfaitement. Tout est bien calculé à chaque fois. Il faut juste que je parvienne à avoir la trajectoire idéale, à avoir les réflexes qui vont bien, parce qu'on peut quand même se rattraper parfois, ça arrive. On ne peut pas non plus avoir que un par cœur. Parfois, on arrive aussi à avoir des bonnes réactions face aux mauvaises surprises. Et donc, je me suis mis dans cet état d'esprit-là et ça a marché. Voilà, j'ai réussi à aller au bout, malgré tout, et malgré un boss de fin qui est... J'ai pas de mots. C'est-à-dire que tu vas de mauvaise surprise en mauvaise surprise avec ce boss de fin. Déjà, auparavant, on a certains qui sont vraiment très méchants. Et je ne vous parle pas de certaines pièces cachées dans lesquelles vous pouvez aller chercher de quoi faire gonfler votre barre de magie ou votre barre de vie. Où on te met, en fait, avec des murs sur lesquels tu vas pouvoir rebondir. En fait, tu restes accroché au mur, mais tu glisses en même temps. Et tu te retrouves avec deux plateformes qui grimpent comme ça et qui sont évidemment électrifiées. Donc, si tu les touches, c'est mort. Sur le côté, des murs avec des petits espaces. Et quand ce n'est pas des espaces, c'est des pics. Et il faut évidemment réussir à sauter comme ça de petit bout de mur à petit bout de mur. Sauf qu'à un moment, on te met une créature volante en même temps. Donc, il va falloir que tu apprennes à sauter et en même temps à la frapper et en même temps à bien atterrir en ayant réussi ton double saut. Alors, des fois, les doubles sauts, d'ailleurs, s'annulent. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans le jeu d'avoir peut-être un problème d'input ou je ne sais pas. Et quand vous êtes dans ces situations-là, vous devenez complètement cinglé. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est le genre de jeu. Si vous n'avez pas la tête froide, si vous avez peur de la difficulté, si vous avez peur de casser votre manette, parce que là, pour le coup, ça peut arriver. Hein, après, comme je vous dis, après un niveau, enfin, après un bout de niveau où vous vous dites « Ah, j'ai réussi à passer », et en fait, vous vous rendez compte que au moment où vous êtes soulagé, vous soufflez, vous faites « Ah, j'ai réussi, yes !» et vous êtes en train de célébrer, bah là, il y a une bestiole qui arrive et qui vous tue. Vous ne saviez pas d'où elle sortait. C'est ce genre de truc qui vous arrivera avec Cyber Shadow, qui pour le coup réussit donc parfaitement son expérience. Là, pour le coup, il n'y a vraiment aucun problème. Ceux qui attendaient à ce que ce soit du niveau d'un Shovel Knight ou d'un The Messenger, donc, qui sont, je vous le dis, beaucoup plus indulgents, beaucoup plus permissifs, qui ont envie qu'il y ait le plus de joueurs qui viennent à eux pour pouvoir être finis. Ce n'est pas du tout le cas avec celui-là. Il n'y a pas de niveau de difficulté. C'est comme ça et pas autrement. Et donc, voilà. En partant de ce constat, vous savez dans quoi vous embarquez avec Cyber Shadow. Ça vaut 19€ et quelques, donc ça vaut largement le coup. À mon sens, si vous avez besoin d'un challenge, là, pour les jours ou les mois qui viennent, vraiment, n'hésitez pas. Ça, encore une fois, comme pour Thomas, je pense que c'est, avec Ghost and Goblins Resurrection, je pense que ça fait partie des jeux qui vous mettent des claques, mais pour les bonnes raisons. Qui ne sont pas du tout qui sont pas du tout injustes ou qui vont pas voyez c'est pas les boss par exemple c'est pas du tout des sacs à PV ou autres sur lesquels vous allez passer des heures non il y a vraiment une méthode qui est facile si vous avez les bons réflexes si vous avez la bonne attitude tout se passe bien c'est comme ça que ça marche pour Cyber Shadow qui du coup a la même note voilà la même note que Ghost and Goblins Resurrection on a tous les deux mis un joli 8 à ces jeux. Et je pense que c'est mérité.
Voilà. Est-ce que la vie n'est pas assez dure en ce moment ?
Écoute,
infligeons-nous ces choses-là quand on
est dans notre détente.
Ben, tu rigoles, mais ça fait un bon défouloir, mine de rien. C'est là que tu te dis, quand même, quand on était petit, on avait quand même beaucoup de résilience, comme on dit dans les médias aujourd'hui. Et pourtant, les jeux d'époque n'étaient pas aussi. Ils étaient beaucoup plus injustes que ce qu'on a là. Parfois,
ils n'avaient pas de checkpoint déjà.
Ouais, et puis des fois, c'était même pas testé la difficulté. C'était, on balance comme ça, et puis les joueurs vont se démerder. Moi, j'ai réussi, après tout, je suis le codeur, j'ai réussi. Il n'y a pas de problème pour les joueurs, normalement.
Le nombre de jeunesses qui sont sorties effectivement dans un état pas clairement débuggé ou avec une difficulté qui avait été rehaussée au dernier moment parce que sinon on voyait trop vite le générique de fin. C'est...
Oui, et puis rappelons quand même qu'à l'époque, les jeux d'arcade étaient durs exprès pour que les gamins comme nous aillent mettre le plus de pièces possible dedans. Hein. Donc on est vraiment dans l'esprit.
C'est le cas de Ghost and Goblins, hein. C'est un attrape-pièce au départ. Et tu parlais des boss juste avant et de la résilience, et ça me fait penser à une perfidie de plus du jeu. Quand t'es vraiment à ça d'avoir battu un boss, qui sont pas non plus des sacs à PV, qui ont juste plusieurs phases qu'il faut réussir à parfaitement éviter, t'as toujours un message des développeurs qui disent « Oh, mais c'est dommage, vous y étiez presque. » C'est con parce que si vous aviez fait attention à tel truc, vous auriez peut-être esquivé. Donc, tu as toujours un message qui te donne un conseil tout en se moquant un petit peu de toi en disant « Ah, vraiment, mais ça s'est joué à ça, hein, c'est quand même pas de bol. » Et ça te pousse immédiatement à réessayer forcément.
Ouais. Bah là, celui-là, il te fait pas de message comme ça, mais par contre, il te fait bien enrager quand même. Donc, voilà.
Mais vous voyez, on garde le sourire. On est tous les deux très contents de l'expérience qu'on a vécue.
Exactement. Je me mettrai à Ghosts and Goblins peut-être un autre jour. On verra. En tout cas, c'est comme ça que s'achève le podcast de cette semaine sur la difficulté, sur les problèmes de la vie, évidemment. On espère un vaccin un jour. Merde. Je n'arrête pas de le dire, hein, mais j'en peux plus là. Il faut absolument que ce vaccin arrive.
Bah, vieillis, écoute. Tu veux pas avoir
75 ans ? Okay. C'est déjà fait. Techniquement, là, j'ai 75 ans, mais pour d'autres raisons. Bref, merci Romain, merci Thomas, une fois de plus pour ce podcast. Merci à Poufy, le pouffeur, juste derrière nous, que vous n'entendez pas, mais on peut vous le garantir, nous, on l'entend un petit peu dans l'oreillette. Et merci à vous de votre fidélité pour nous avoir suivis une fois de plus. On sait que certains d'entre vous sont contents d'être cités dans le podcast, notamment la semaine dernière. On a un pote qui est venu me voir pour me dire qu'il était content d'avoir été cité. Axel, je te recite du coup. On espère te revoir bientôt. On espère que ça va pour toi au Japon. Et puis, écoutez, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction qui risque encore une fois d'être bien chargé. D'ici là, comme d'habitude, lavez-vous les mains, les gestes barrières, le masque. Allez pas rue de Bussy si vous êtes parisien. Allez pas non plus sur le littoral méditerranéen. Allez pas à Dunkerque. Bref, restez chez vous. Voilà, tout simplement.
Moi, je pars à la montagne, monsieur. J'ai le droit.
Ça dépend où.
En Haute-Savoie, pas dans les Alpes-Maritimes.
Ouais, c'est limite, hein.
Ouais, je pense ça pour un oui, c'est bon.
Ok, ça marche. Bon, allez, à la semaine prochaine, bisous. Ciao.
Ciao.